C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'est épatant.
Depuis les Champs-Élysées,
sur Vivre FM. Il est parfois étonnant ou désagréable, lorsqu'on attend dans une file d'attente depuis un moment, de voir une personne jeune et semblant en parfaite santé passer devant nous en montrant une carte d'invalidité. On peut se dire, elle exagère, elle n'a rien, elle n'est pas plus handicapée que moi. Ça suscite parfois même la colère des gens bien portants, le refus d'accepter cette carte d'invalidité de la personne avec les droits qui vont avec. Eh bien, on a tort, car cette personne souffre de handicap invisible, un handicap réel, même s'il ne se voit pas, rendant impossible à cette personne la station debout dans le métro, dans un bus ou dans une queue de magasin. Et l'agressivité subie par ces personnes avec handicap invisible est une vraie souffrance et les amène même à éviter de sortir tout simplement de chez elles. Alors on en parle avec des témoignages poignants aujourd'hui, on verra comment on vit avec ce handicap invisible, comment on l'assume et ce qu'on peut faire pour améliorer les choses.
Vous écoutez Vivre c'est épatant
avec Carole Clémence.
Avec nous dans le studio Marie-Claire Vidja, bonjour. Donc vous êtes notre première invitée, il y en aura d'autres qui vont suivre, vous allez rester tout au long de cette émission. Marie-Claire, vous avez un handicap invisible, de quoi souffrez-vous ?
Je souffre de la maladie du nom de spondylarthrite ankylosante. C'est une maladie qui atteint principalement la colonne vertébrale et les sacro-iliaques, mais pas que. Elle peut atteindre toutes les articulations et elle rend énormément de choses au quotidien à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, chez soi, extrêmement difficile, voire parfois impossible à faire pendant les crises,
oui.
Notamment.
Alors, vous souffrez à quel niveau ? Vous avez du mal à vous mouvoir ? Quelles sont les difficultés ?
Selon le degré de crise dans lequel je vais être, par exemple, je vais parler de ces derniers temps, je ne trouve absolument aucune position pour me poser plus de 30 minutes. Je suis obligée de me mouvoir pour arrêter ce qu'on... On appellerait une ankylose, mais c'est une ankylose passagère.
Oui.
Du coup, j'ai des douleurs qui font que je ne tiens pas en position, quelle qu'elle soit, en fait. Là, c'est plus le stade de « je ne peux pas piétiner » ou « je ne peux pas rester debout ». C'est même allongée, même assise. Je ne trouve aucune position avec mon ordinateur pour travailler,
oui.
Avec mon téléphone. Du coup, ça devient vraiment un enfer.
Même, vous bougez, donc vous êtes obligé de vous déplacer, de bouger, et ça améliore un peu les choses.
Je suis obligée de me mouvoir. Alors, on est en ready. Hein. Non, le truc oui. Spécifique, notamment le matin, puisque la nuit, on ne bouge pas beaucoup. Donc, le matin, on se lève et on en a, en fonction de l'état dans lequel on est, une demi-heure, une heure, jusqu'à trois heures de phase de dérouillage. Donc en fait, normalement, c'est au matin le pire. Hein. Donc
oui.
La nuit est pire, le matin est le pire. Et puis la journée, quand on bouge, entre guillemets, ça va mieux. Mais en fait, on est douloureux H24. Et les positions, on ne peut pas durer longtemps. Par exemple, là, je suis sur une chaise. Il y a un moment, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais je vais bouger de sorte à ce que mon coccyx ne hurle pas à la mort et que je perde mon cerveau et le fil de ce que je vous dis,
oui,
en fait.
Oui, oui. Et si vous avez besoin de faire une pause, vous nous l'indiquez. Il n'y a aucun souci, Marie-Claire. Alors, comment êtes-vous venue ici aujourd'hui ? Est-ce que vous avez pris le métro, une voiture ? Comment ça s'est passé ?
Alors, j'ai pris le métro il y a eu le confinement, c'était très... pour les gens comme moi, le confinement, voilà, c'était pas très embêtant parce qu'on se disait, tiens, je vais plus avoir affaire à toutes les problématiques que je peux avoir dehors. Bien que j'avais depuis des années décidé de... Moi, je fais plus mes courses depuis 2009. Voilà, c'est très rare que je rentre. Sinon, je vois qu'il y a vraiment personne. Et puis bon, le proprio du magasin me connaît, etc. Mais là, je suis venue en métro. C'est une heure où il n'y a pas grand monde, donc c'est très bien. Mais par contre, quand je vais prendre des rendez-vous médicaux ou quoi que ce soit, je vais calculer mon coût,
oui.
Me dire, attends, à cette heure-ci, laisse tomber, n'y va pas.
Oui.
Il n'y a pas de rendez-vous, il n'y en a pas avant un mois. Tant pis, j'irai. Il me faut un horaire correct. Parce que dans le métro, c'est très difficile. J'ai quelques anecdotes pour en parler.
Oui, mais justement, une anecdote, on commence. Mmh. C'est-à-dire que vous avez une carte d'invalidité, on l'explique, qui vous permet de rentrer dans un métro, dans un bus, de montrer cette carte à la personne qui est la plus proche de la sortie, et la personne doit se lever, si elle n'a pas la même carte évidemment, doit se lever et vous laisser la place. C'est la loi.
Oui, Et en plus, en tout cas personnellement et d'autres amis atteints comme moi, on prend la peine de demander « Est-ce que vous êtes malade ?»« Bonjour, est-ce que vous êtes malade ?» La personne regarde bizarrement, mais du coup on lui montre la carte. « En fait, j'ai besoin de la place, mais si vous êtes malade, je demande à quelqu'un d'autre en fait. »
Oui.
Parce que je me mets à leur place.
Bien
avant
sûr.
D'en être là personnellement, parfois j'étais malade ou fatiguée, mais parce que je ne savais pas que j'avais cette maladie. Du coup, je ne me sentais pas bien. Et quand on me demandait, en fait, je n'étais pas en capacité. Et avant d'avoir cette carte, c'était la souffrance encore plus. Et depuis que j'ai cette carte, j'ai cru en l'humain. J'ai vite déchanté. J'ai mis déjà très longtemps à la sortir, à l'utiliser. Je n'y arrivais pas.
Oui.
C'était personnel, ça, c'était moi. Puis quand je me suis mise à la sortir, j'ai vu des réactions très, très, très dures. L'anecdote qui me marque, qui me reste vraiment en tête, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Enfin, il y en a deux. Deux qui sont énormes. Donc là, je rentre du travail, à savoir que je continue à prendre mes forces à mille mains pour aller travailler parce que j'aime ce que je fais, mais j'ai plus vraiment les moyens en réalité. Mais bon, là n'est pas le sujet. Et du coup, j'ai quand même eu une semaine de 20 heures de transport
oui. En
région et sur Paris. Et on est jeudi, donc c'est ma dernière journée puisque je fais en sorte d'avoir 3 jours pour récupérer. Sinon, je ne peux pas aller au travail.
Oui.
Et le métro est bondé. Je monte et je me mets dans un coin. Donc, en fait, il n'y a pas de place. Je me mets dans un coin là où il y a une petite place à côté de la porte.
Oui.
Et je demande si je peux m'asseoir. On me laisse la place. Et puis, je suis entourée de nénettes debout et je me pousse. Je suis toute petite. Je leur dis comme ça, je ne vous prends pas beaucoup de place. Et il y a un monsieur qui rentre et qui dit « Mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là toute jeune, toute affrétée. Elle ne se lève pas ?» Du coup, je sors ma carte et je la montre. Et j'avais pas eu à le faire avant parce que j'étais toute pâle, en fait. Et il dit « Ouais, c'est ça, de la comédie. Et en plus, ça a une carte, ça a fraude. » Et là, moi, j'ai pleuré.
Ouais.
En fait, j'en pouvais plus, déjà, moi. Donc là, il m'a achevé en fait. Et je n'ai fait que pleurer. Et en fait, il s'est fait bouffer par toute la rame. Puis il est descendu à la station d'après. Du coup, il n'est pas allé loin.
Ouais.
C'était terrible.
Mais ça, c'est exceptionnel ou ça arrive tout le temps?
À ce point-là, aussi méchant? Non, quand même, c'est exceptionnel. Après, la deuxième anecdote, elle peut paraître moins dure, mais pour moi, elle l'est tout autant. Mais elle est quand même assez régulière. Voilà, je m'adresse à une femme, parce que je me dis, voilà, je vais éviter. Excusez-moi, les messieurs, c'est pas méchant. Du coup, je lui montre ma carte et je lui demande si je peux m'asseoir. Et elle me dit, non, pourquoi ? Je lui dis, excusez-moi, je suis fatiguée, etc. Et en plus, c'était visible en fait, là pour le coup pas beaucoup, mais c'était visible parce que c'était pas ma maladie de spondylarthrite ankylosante
oui. Qui
faisait que, c'était que je venais de subir ce qu'on appelle une mastectomie partielle.
Oui.
Donc je sortais de Curie, donc on enlève une partie du sein, donc j'ai encore tout le gros bandage, ça se voit. Et je me suis dit, mais entre femmes j'aurais cru que vous pourriez comprendre. Et en fait, non. Et elle m'a envoyé bouler. Et du coup, moi, j'étais sidérée. Et du coup, j'ai rien dit. En fait, je passe mon temps à rien dire, en fait. Mais je pense qu'un jour, je vais exploser.
Oui.
C'est comme je suis en train de marcher pour sortir du métro. Puis il y a une dame très grande. Moi, je suis petite. Très grande, très forte. Et puis, sans se rendre compte, elle n'a pas fait exprès, bien sûr. Elle me bouscule avec un coup dans l'épaule. Elle, pour elle, c'est rien. Moi, ça va me coûter en fonction une journée, une semaine ou un mois.
Ah oui, oui.
Elle me dit, ouais, mais c'est rien, vas-y, c'est quoi ton cinéma ?
Et oui, c'est le handicap invisible.
Ouais. Voilà.
Voilà, on voit pas et on comprend pas. Et donc, il faut éduquer les gens. Alors, on a en ligne d'autres personnes qui souffrent de la même manière que vous, Marie-Claire Vidja. On a Marine au téléphone. Bonjour, Marine. Marine, est-ce que vous m'entendez ?
Vous m'entendez ?
Oui.
Bonjour.
Bonjour Marine. On aura aussi Charlène au téléphone. Charlène aussi, vous nous entendez ?
Oui, très bien.
Bonjour Charlène. Alors, toutes les deux, vous avez entendu, je pense, les anecdotes de Marie-Claire, ce qu'elle vit au quotidien. Est-ce que vous vivez la même chose ? On commence par qui, Marine ?
Oui, si vous voulez, il n'y a pas de...
Allez-y Marine.
Oui, on vit tout le temps, je pense, un petit peu la même chose. Alors après, de manière différente, moi, je ne vis pas sur Paris, j'habite une région un peu plus calme. Donc, tout ce qui est transport, déplacement, les problèmes que Marie-Claire peut rencontrer à ce niveau-là, je ne les ai pas, Dieu merci.
Oui.
Mais j'en rencontre bien d'autres, hein, dans les supermarchés ou au niveau des places de stationnement. Ça reste, j'ai quelques anecdotes assez sympathiques.
Oui, oui, oui. Et donc, vous avez justement, racontez-nous une ou deux anecdotes, comment ça se passe et comment vous gérez les choses.
Bien, pour, je vais commencer. J'en ai deux qui m'ont pas mal marqué. C'était une fois au supermarché. Donc, en fait, vous avez les caisses priorité handicapées. Ce que je comprends pas, c'est que la plupart du temps, les personnes qui sont dans ces queues-là ne sont pas handicapées.
Oui, effectivement, oui.
Moi, je viens, je demande une fois à une dame, sa fille adolescente, si elles peuvent me laisser passer. J'ai la carte en main, je la leur montre. Et l'adolescente me répond non, mais vraiment très sèchement.
Oui.
Alors, le truc, c'est que moi, je suis pas timide. Donc, je lui ai dit, si, je passe quand même. Et je suis passée. Et finalement, mon problème, c'est plus pour les personnes qui sont... Je remarque que la plupart des personnes qui sont handicapées, eux, sont timides. Beaucoup n'osent même pas montrer leur carte.
Oui.
Et quand on voit des réactions comme ça avec des personnes qui osent nous dire non, alors qu'ils voient la carte, eh bien, je comprends encore plus qu'ils aient pas envie de s'en servir et que, bah, du coup, ils restent dans leur souffrance, dans les queues, malgré qu'en fait, ils ont la priorité pour ça.
Oui. Alors, on voit parfois, je l'ai déjà vu, des personnes qui ont cette carte et qui ne s'expriment pas, qui passent directement en passant la carte. Est-ce que c'est pas la solution ? Alors, effectivement, c'est plus agressif pour les gens qui ne comprennent pas, mais c'est une façon de passer.
Oui, c'est une façon de passer. Après, dans les caisses, en fait, on n'a pas toujours la possibilité de le faire. Je vois à Carrefour comment c'est fait. Les gens, ils sont entre les barrières. J'ai pas la possibilité de les doubler une fois qu'ils ont leur affaire de poser
oui.
sur le taxi. Il n'y a pas toujours la possibilité de passer, en fait. À Lidl, par exemple, si, alors je ne sais pas, excusez-moi, je me démarre comme ça, je n'ai peut-être pas le droit. Mais ils ont une caisse plus large, donc effectivement, je peux un peu passer. Donc je suis polie, je m'excuse auprès des gens, excusez-moi, j'ai la carte, je me permets. Mais il y a des fois où aussi, on n'a pas l'énergie, on n'a pas toujours envie de...
Oui, on n'a pas le courage.
...envers les gens. Alors à ce niveau-là, dans ma région, il y a une application qui est en test, elle s'appelle Handi Valide. Donc, on la trouve à Carrefour. On a juste, du coup, à signaler notre présence. La caissière a un petit émoticône qui s'allume et elle regarde dans la file et on a juste à signaler à elle.
Donc, vous êtes dans quelle région, Marine ?
Dans l'Aube. Je vis dans l'Aube et apparemment, c'est juste en test dans mon département en ce moment.
Oui. Et donc, ça c'est efficace ?
Bah, ça me paraît pas mal, en tout cas, comme concept. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup tendance à passer par le drive. Depuis le confinement, j'ai pris d'autres habitudes. Les quelques fois où j'ai eu l'occasion de m'en servir, j'ai trouvé ça quand même agréable.
Oui, oui. Marine, vous pensez qu'il faudrait faire, justement ? Est-ce que, par exemple, vous nous racontiez cette adolescente qui refuse de vous laisser passer. Est-ce qu'elle savait qu'elle était obligée de vous laisser passer ? Est-ce que c'est un défaut d'information ?
Probablement, parce que généralement, de toute façon, la plupart du temps, quand je retrouve des personnes qui arrivent sur les places handicapées, c'est aussi très souvent des jeunes permis avec le A derrière. Donc, il y a forcément une sensibilisation à faire auprès des écoles. Et même pour moi, en vérité, avant d'être handicapée invisible, je pense vraiment que dans mon esprit, les personnes handicapées, c'était des personnes en fauteuil roulant. Bon, c'est vrai que tant qu'on n'a pas vécu, on se rend pas bien compte. La médecine a fait des progrès énormes aujourd'hui, ce qui fait que effectivement, on peut être handicapé invisible.
Oui, oui. Charlène, vous vivez à Marseille. Comment ça se passe pour vous ? Vous souffrez également d'un handicap invisible ?
Alors moi, je vis pas à Marseille, je vis à La Ciotat. C'est un peu reculé, c'est plus un petit village que la grande ville. Je souffre énormément de mon handicap invisible tous les jours. Moi, je suis stomisée. J'ai des perfusions toutes les nuits pour m'hydrater, pour m'alimenter parce que... j'ai un grêle court et je souffre d'un handicap invisible tous les jours. Alors particulièrement, j'écoutais les anecdotes des deux personnes avant moi et je me reconnais tellement parce que c'est quelque chose auquel on doit faire face vraiment quotidiennement. Et moi, par exemple, quand je vais faire mes courses, c'est pareil. J'avais tellement peur et tellement honte au début que je n'osais pas sortir de ma carte handicapée.
Oui.
Par peur, justement, des réactions des autres. Et puis, il y a peu de temps, il y a quelques mois de ça, j'ai pas eu le choix. J'étais trop fatiguée, je l'ai sortie. Je l'ai sortie aux impôts quand j'ai dû aller faire des papiers administratifs. Je me suis fait insulter par un monsieur dans la salle d'attente. Ça a commencé par un monsieur. qui a chauffé un autre monsieur. Finalement, j'avais toute la salle d'attente qui était contre moi. Alors, j'ai eu des insultes telles que j'étais mal élevée, que j'étais une jeune qui trafiquait, parce que du coup, j'ai montré ma carte. J'ai dit, vous imaginez bien que... Et en fait, j'ai pas osé rétorquer plus, montrer ma poche, parce que j'aurais très bien pu lever mon t-shirt et montrer ma poche, surtout qu'elle est visible, quoi. C'est une poche qui est sur le ventre. Je sais pas si vous connaissez un petit peu, mais... Voilà, j'ai une poche, j'avais un sac dans lequel j'ai mis mon tuyau et une poche plus grande parce que du coup j'adapte pour sortir une poche plus grande qu'avec un tuyau. Et en fait, quand je suis sortie de là, j'étais en pleurs parce que j'ai pas osé dire non mais j'ai un handicap très lourd, hein, je suis reconnue à 80% à la MDPH, c'est pas un petit truc, c'est pas parce que j'ai 27 ans que voilà, ça se voit pas et ça veut rien dire.
Mais c'est fou ça, et vous n'avez rien osé leur dire, vous pensez que si vous aviez pu leur dire mais j'ai ce problème, cette poche, etc., ils auraient compris?
Justement, je sais pas, et je pense que c'est ça qui m'a un peu freinée, c'est que j'ai pas osé dire, j'ai une poche, et j'ai pas osé lever ma robe, j'étais en robe ce jour-là, c'était cet été, et j'ai pas osé faire ça. Mais je pense qu'un jour, ça va exploser parce que je prends sur moi, je sors en pleurs quand je rentre chez moi. C'est moi qui en paye les conséquences. Et en plus, j'ai un peu la double peine. J'ai le handicap invisible dont je souffre chaque jour. C'est pas facile tous les jours. Et le regard des gens et tous ceux à quoi on doit faire face, c'est parfois limite du traumatisme parce qu'ils sont violents, ils sont méchants, ils sont dans la compréhension. Et des fois, je me dis, est-ce que si on leur explique, ça serait différent? Je ne sais pas. Je me bats pour faire ça sur ma page Instagram en disant que voilà, le handicap invisible, il existe. D'ailleurs, on est énormément, je crois même que c'est 80% de personnes handicapées qui ont un handicap invisible. Et un handicap, c'est pas forcément être en fauteuil. Et c'est notre vie, en fait, de personnes handicapées invisibles. Je pense que on doit faire face à ça, que ce soit au supermarché, que ce soit aux impôts, dans des endroits où on doit faire des papiers administratifs. Mais aussi, quand je me garde sur une place handicapée, je me suis fait plusieurs fois interpeller, appeler, rattraper. « Hey, madame, vous savez que c'est 135 euros d'amende. » Et puis, ils sont méchants, ils sont vifs. J'ai dit « Oui, mais j'ai la carte, elle est sur mon pare-brise. » Ils me regardent de haut en bas, ils me dévisagent en me disant « Mais vous êtes handicapée de quoi ?»
Oui.
Et en fait, j'ose jamais répondre. J'ose jamais, les affronter. Et je pense qu'un jour, ça va exploser.
Est-ce qu'il y a un profil particulier de ces gens agressifs?
Écoutez, je ne vais pas faire de généralité. Généralement, c'est des gens qui pourraient avoir l'âge de mes parents, donc je dirais entre 50 et 60 ans. Parfois même des personnes âgées. C'est jamais des enfants, jamais des adolescents, jamais des personnes plus jeunes que moi.
Oui.
C'est toujours entre 50 et 70 ans peut-être.
Oui.
Mais des hommes comme des femmes. Des fois on se dit peut-être que les femmes sont peut-être plus compréhensives entre elles ou quoi. Je sais pas, c'est idiot. Mais non, même pas. Je me serais vraiment insultée par des hommes comme des femmes.
Oui, oui. Marie-Claire, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec le profil où vous voyez des jeunes aussi qui...
Ah oui, en tout cas, je ne sais pas si c'est la région.
Oui.
Moi, à Paris, il n'y a pas de différence. Je veux dire, tous les âges peuvent nous rentrer dedans, si j'ose dire, hein, parce que c'est vraiment ça, en réalité, c'est une agression. Et en fait,
c'est ça.
Et moi, j'aimerais rebondir, si possible, sur pas mal de choses qui ont été dites. Déjà, il y a un point extrêmement important pour moi qui est le pourcentage de handicap. J'entends très bien ce que dit Charlène, mais en fait, je ne suis pas d'accord sur un fait qui est celui de j'ai tel pourcentage de handicap, donc il n'est pas... En fait, quel que soit le pourcentage de handicap qu'on a, il est reconnu.
Oui.
Il implique des choses dans la vie de la personne, et ça doit être pris en compte et respecté. Alors après, je suis d'autant plus choquée, mais je l'ai vécu aussi, dans les services publics, je ne comprendrai jamais qu'il n'y ait pas quelque chose de prévu qui fasse qu'on n'en arrive pas à vivre une agression dans un service public pour qu'en tant qu'handicapé, avoir notre place. Donc déjà, ça, c'est vraiment choquant. Et je dirais pas c'est limite un traumatisme, je vais le dire, c'est un traumatisme. Ce sont des traumatismes au quotidien. Et on pleure sur le moment, ou en rentrant, mais c'est quelque chose qui va revenir au fur et à mesure dans le temps, dans notre tête. Alors on me dira, va consulter. Ouais, ok, je vais consulter, il n'y a pas de souci, je consulte déjà. Mais en fait, ce n'est pas ça la question. La question, c'est l'accumulation de ces micro-traumatismes font qu'on s'isole. Et après, on nous dit... Oh, ben t'es pas sociable, non sans blague.
Ouais.
Et à un moment,
Charlène, vous vivez ça, vous reconnaissez effectivement, vous avez tendance à vous isoler vous-même.
En fait, je me suis isolée quand il m'est arrivé ce problème, par exemple aux impôts cet été.
Oui.
Pendant quelques jours, j'ai pas voulu sortir ou faire face même à aller faire mes magasins ou à aller faire mes courses ou avoir à affronter. Le regard sous prétexte que je montrais ma carte handicapée. Voilà, il m'a fallu quand même quelques jours. Et je pense que effectivement c'est du traumatisme et que même si on a beau consulter, voir un petit motif ou un petit pour mon handicap, pour ma pathologie, pour mon quotidien qui est pas facile, c'est vraiment quelque chose de dur auquel on doit faire face tous les jours.
Oui, oui. Charlène, vous avez une page Facebook justement où vous parlez de tout cela, c'est ça? Vous pouvez nous donner son nom?
Oui, c'est Kangourou Girl. Ah,
d'accord.
J'ai une page Instagram et une page Facebook sur laquelle j'essaie de partager mon quotidien. Alors vraiment voilà les anecdotes, les choses qui peuvent m'arriver qui me choquent et en fait dans l'espoir de pouvoir en parler et de sensibiliser les autres. Parce que, voilà, encore une fois, c'est pas parce qu'on n'est pas en fauteuil qu'on n'est pas handicapé.
Évidemment.
Et je voulais rebondir sur ce qu'a dit la dame avant moi. Effectivement, le taux de handicap ne veut rien dire pour moi. Qu'on soit handicapé à 20%, 30%, 40%, 100%, ça n'a aucune importance dans le sens où on est handicapé et chaque handicap a son importance et ses conséquences et il faut le respecter et ça les gens j'ai l'impression qu'on ça manque je le dis tout le temps hein, les gens manquent cruellement d'humanité de bienveillance de savoir vivre parce que si
Charlène qu'est-ce qu'il faudrait à votre avis qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer les choses?
J'en ai aucune idée déjà j'en parle en fait en parler je pense que le fait d'informer et de sensibiliser les gens essayer de autour de nous d'en parler le plus possible peut-être que parfois leur comportement je me dis peut-être que leur comportement est dû à une incompréhension et ils savent pas ils connaissent pas à l'inconnu mais ça leur donne pas le droit d'agir comme ils agissent en fait
oui.
Donc j'essaye de malgré tout d'en parler voilà de dire que le handicap il est pas forcément visible qu'on souffre et que souvent c'est ce que je fais sur ma page j'essaie de me montrer avec des habits et apprêter, on voit pas, voilà, j'ai 27 ans et les gens disent, la dernière fois, on m'a quand même dit, vous êtes trop jolie pour être handicapée. Je savais pas comment prendre cette phrase, j'étais hallucinée, Donc en fait, voilà, sur ma page, j'essaie de montrer que dessous des vêtements et dessous des sourires, il se cache des handicaps, il se cache des souffrances.
Oui. Merci Charlène pour votre témoignage. Merci beaucoup. Donc on peut retrouver vos témoignages, on peut communiquer avec vous sur Kangourou Girl, donc sur Facebook et Instagram, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Voilà. Merci à vous pour votre témoignage. Je vous souhaite une très bonne journée.
Bonne journée.
Marine, vous êtes toujours là?
Oui, je vous écoute.
Marine, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer les choses? Vous avez entendu tout ce qu'on a pu dire pour le moment.
C'est pas évident, je pense que forcément ça passe par l'école. Moi je sais que les cours d'éducation civique à l'époque on parlait beaucoup c'était dans ces cours-là, je pense qu'on peut essayer de sensibiliser les jeunes. La cause du handicap devrait rentrer peut-être dans le programme pour informer déjà les jeunes. Maintenant, c'est pas que les jeunes non plus. Bon, c'est une éducation pour l'avenir, ça serait important de le faire, mais pour aujourd'hui, peut-être passer aussi par la télévision parce que c'est vraiment toute génération, toute tranche d'âge qui commet ces incivilités envers les handicaps invisibles.
Oui.
Il n'y a pas de catégorie d'âge particulière qui est. Je pense que c'est dans l'éducation des gens, dans ce qu'ils ont pu vivre et dans leur rapport à l'autre aussi tout simplement. Parce que quand on est un peu humain, quand quelqu'un nous dit qu'il est handicapé, on comprend, on a envie de l'aider, on est ravi de le laisser passer même.
Il y a peut-être cette idée, cette personne ment. Il y a peut-être cette idée, il y a tellement de gens qui trichent, il y a ces histoires de fausses cartes de stationnement, on en a beaucoup entendu parler dans les médias, il y a cette histoire, elle triche, c'est pas vrai?
Oui, c'est le problème, moi j'ai vu des comptes sur Snap qui vendaient des cartes d'handicapés, j'étais choquée, je me dis,
enfin, comment vous pouvez humainement faire ça? Et puis, c'est le problème, c'est qu'à partir du moment où il y a de la fraude, après, on en vient à douter de tout le monde.
Oui.
Et comme Charlène disait, elle aime se faire jolie, s'apprêter. Marie-Claire, c'est pareil. Et moi aussi. Moi, on m'a déjà reproché d'être en talons. Non, t'es en talons, tu ne peux pas être handicapée. Mais si, en fait, et même, il y a des handicaps, des fois, la personne, elle va être plus à l'aise avec des talons qu'à plat, finalement. Donc, on ne peut pas juger de ça. On a envie de s'apprêter. Excusez-nous si on n'a pas envie, oui, quand on marche dans la rue, que ça soit écrit qu'on est handicapé. Alors que pour les gens, on dirait que pour qu'ils nous croient, il faudrait qu'on ait un signe extérieur qui signifie notre handicap. Donc, par un moment, j'avais besoin d'une canne. Ah ben là, quand j'avais ma canne, on était passé sans souci. Enfin, il n'y avait pas de problème. Quoique non, j'ai dans une fête un jour, pour m'approcher devant, eu des personnes qui m'ont poussé et qui n'en avaient rien à faire de ma canne. Mais bon, enfin voilà, il y a toujours des incivilités que vous ayez... une visibilité ou pas, de toute façon, je
oui,
crois.
Oui, oui, oui. Et alors, vous essayez d'expliquer aux gens comment vous procédez quand vous sentez que montrer votre carte ne suffit pas ou ça va poser problème?
Bah, alors, pour l'instant, je suis toujours très polie, diplomatique, je prends sur moi, j'essaie de faire un peu de la pédagogie, de l'éducation, mais c'est pas toujours évident parce que, bah, je vous dis, il y a des personnes qui vous jettent en pleine figure, mais non, t'es en talons, t'es bien habillée, enfin, qu'est-ce que tu me racontes, t'es pas handicapée. Vous avez beau leur montrer votre carte, ouais, bah, comme il y a des fraudes, en fait, ils pensent que...
Oui, c'est ça. Alors, nous avons en ligne Maïté Ferdinand. Bonjour Maïté.
Bonjour, bonjour à tout le monde.
Maïté, vous entendez les différents témoignages, vous souffrez vous-même d'un handicap invisible, vous avez connu tout ça, enfin vous connaissez tout ça?
Oui, je connais tout ça, j'entends bien ce que les intervenantes depuis le début de l'émission disent, et c'est vrai que je me retrouve dans un petit peu toutes les situations, et je pense que toutes les personnes qui souffrent d'un handicap invisible vivent exactement les mêmes situations.
Et alors vous, ça vous a tellement touché, bah, comme les autres évidemment, mais ça vous a tellement touché que vous avez décidé d'agir.
Oui, c'est ça. C'est que suite à des donc à mes soucis de santé, on m'a donné cette carte qui est la carte prioritaire. Donc j'étais ravie d'avoir cette carte qui n'est pas facile à obtenir. Hein. Tout le monde sait à quel point il est compliqué de faire son dossier MDPH. Et quand je l'ai obtenu, je me suis dit super, ça va me soulager. Et puis finalement, la première fois que je me suis rendue dans un commerce et que je me suis engagée dans la file prioritaire, j'avais cette carte à la main et ma première réaction, ça a été comment ça fonctionne.
Oui.
Donc je me suis trouvée un petit peu bête. Je me suis vite rendu compte qu'il allait falloir quémander sa place à toutes les personnes qui se trouvaient devant moi.
Oui.
Ou alors, deuxième option, je pense, doubler tout le monde pour aller interpeller le professionnel de caisse ou d'accueil. Donc, dans l'une ou dans l'autre situation, j'étais très, très gênée. Je l'ai quand même tenté. J'ai quand même demandé ma place aux personnes qui étaient devant moi. Même réaction que les intervenants tout à l'heure. On vous détaille de la tête aux pieds.
Oui.
On se permet de vous demander ce que vous avez, comme oui. si on devait se justifier et sortir ses justificatifs, soit de la MDPH ou alors de santé, ses examens. On n'a pas envie de tout ça. On n'a pas envie de devoir raconter sa vie à qui que ce soit. On n'a pas envie d'être regardé comme une bête curieuse. Et donc, j'ai décidé voilà, de trouver une solution pour faciliter ce passage dans les files d'attente.
Oui. Est-ce que vous pouvez juste nous dire un petit peu plus sur cette carte prioritaire? Elle ressemble à quoi? Est-ce qu'elle est comment l'identifier?
La carte prioritaire, c'est une petite carte qui est maintenant comme la carte vitale au format carte de crédit. Hein, donc la MDPH a changé ses cartes dernièrement, puisqu'avant c'était des cartes papier qui étaient un peu plus grandes. Et donc voilà, cette carte maintenant, elle est au format carte de crédit.
D'accord, il y a un QR code. Voilà.
C'est ça, il y a un QR code dessus. J'ai pas encore vu les cartes invalidité, mais j'imagine que c'est à peu près le même système. Il doit y avoir un QR code également.
Marie-Claire nous dit que c'est à peu près le même système, effectivement. Voilà. Et donc ces cartes, vous êtes obligée d'expliquer ce que c'est aussi souvent, j'imagine, parce que.
Alors oui, c'est
pas.
Ça. C'est les personnes comme disaient Marine et Charlène, c'est que même quand vous présentez en fait votre carte, on voit qu'il y a la photo, mais avec toutes ces problématiques de fausses cartes qui circulent, les gens viennent à regarder, à être suspicieux de tout ce que vous leur dites. Et puis, une femme en âge 20-30 ans, ou même un petit peu plus vieille, mais pour les personnes, dans l'esprit des personnes, vous ne pouvez pas être handicap, c'est pas possible. Comme si le handicap était réservé uniquement aux personnes âgées.
C'est incroyable, donc, puisque on parle beaucoup de cancer, on parle beaucoup d'autres maladies, c'est incroyable.
C'est incroyable, je suis d'accord avec vous, c'est incroyable. Je pense qu'effectivement, il y aurait beaucoup, beaucoup de sensibilisation. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'autour de moi, je commence à entendre parler qu'il y a des intervenants qui viennent dans les écoles pour sensibiliser les enfants au handicap. Et ça, ça me fait vraiment plaisir parce que je me dis qu'on va avoir une nouvelle génération qui va arriver et qui va être sensibilisée au handicap et qui se posera sûrement moins de questions finalement puisque les informations, ils les auront déjà.
Oui. Alors, vous avez créé un dispositif.
Oui.
Parlez-nous-en. Est-ce que c'est le même dont a parlé tout à l'heure Charlène dans l'Aube?
C'est Marine, je crois, qui en a parlé tout à l'heure. Donc, elle a commencé à en parler un petit peu. Donc, moi, je suis auboise. J'ai créé le dispositif Indivisible.
Oui.
C'est un dispositif, comme je vous le disais tout à l'heure, qui va permettre de se signaler directement auprès du professionnel sans avoir à quémander sa place ou justifier de son état de santé. Ma volonté, c'était de pouvoir créer un dispositif qui se mette dans n'importe quel lieu recevant du public, pas forcément dans la grande distribution, puisque le problème, on le rencontre vraiment partout, que ce soit la poste, la pharmacie, les salles de spectacle, cinéma et j'en passe. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir positionner cette solution dans n'importe quel ERP. Et comment ça fonctionne? Eh bien, écoutez, c'est un émetteur et un récepteur. L'émetteur, c'est une application smartphone qui va être téléchargeable gratuitement pour les personnes en situation de handicap.
Oui.
La personne va s'enregistrer, elle va mettre le justificatif comme quoi elle est bien en situation de handicap. Ensuite, il y aura une vérification et une validation. Pour les personnes qui n'auraient pas de téléphone parce que le handicap ne le permet pas, ou je pense aussi aux personnes d'un certain âge qui ont un téléphone et pas d'internet sur le téléphone, il pourra y avoir une possibilité d'avoir une télécommande.
Oui.
Et donc, ces deux émetteurs seront connectés en Bluetooth à un récepteur. Et le récepteur, donc, ça sera un boîtier électronique qui sera positionné en point caisse ou accueil devant l'hôtesse, ce qui permettra, voilà, quand la personne va s'engager dans une file d'attente, elle va actionner son application qui va émettre le signal sonore à l'hôtesse. La personne va regarder dans la file d'attente qui cherche à se signaler. La personne reste à sa place, lui fait un petit signe discret de la main. Et donc, la personne, tout en restant à sa place, va attendre que le professionnel l'invite à passer. Donc, si c'est une petite file d'attente, les personnes vont céder leur place, mais c'est le professionnel qui demande le passage. Ensuite, on va pouvoir se trouver dans des structures où la personne va être dirigée sur une autre caisse où il n'y a personne pour éviter justement cette gêne. Donc voilà, c'est un dispositif positionnable dans tous les lieux recevant du public.
Oui.
Et qui va être positionné sur un endroit, j'ai envie de vous dire, un peu stratégique pour que l'accessibilité soit facilitée.
Oui.
Sans avoir à cette gêne, justement, ou ces regards qui peuvent être pesants.
Oui, ou l'agressivité verbale, carrément, que vous décrivez. Alors, ça, c'est en phase de test, c'en est où?
Alors, les tests sont terminés dans l'Aube. Ils se sont terminés en mai. La phase de test a eu lieu de novembre 2020 à mai 2021 dans différentes structures, aussi bien de la grande distribution que des commerces, que pharmacie, boulangerie, café, CPAM. Je voulais vraiment montrer que le dispositif avait sa place dans tous les lieux recevant du public. La phase de test a très bien fonctionné. On a eu 1500 téléchargements de l'application, sachant qu'on n'a fait qu'une communication sur le département. Donc déjà, ça montre le besoin.
Oui.
Y a un réel besoin. Et en ce qui concerne les grandes enseignes qui ont participé au test, je suis en train de les recontacter petit à petit puis pour continuer l'aventure Indivisible. Ils répondent tous présents. Ils se sont rendus compte, de par les retours clients, mais aussi le retour personnel, qu'il y a eu vraiment une amélioration au niveau du passage.
Oui.
Les gérants de magasins connaissent la problématique. Et ils sont demandeurs de solutions, malgré tout. On a l'impression qu'ils ne font rien, mais pour la plupart, ils sont demandeurs de solutions. Je crois qu'ils sont un petit peu désemparés, parce qu'ils ont le retour de leur personnel d'accueil ou de caisse, et ils savent pas trop comment gérer. Je crois qu'il y a une sensibilisation à faire de ce côté-là aussi.
Oui, oui, oui. Marine, vous qui avez testé ce dispositif, vous le trouvez efficace?
Alors, j'ai eu l'occasion de tester qu'au supermarché. J'ai pas trouvé d'autre endroit vers là où je vis qui l'avait. Mais en fait, j'avais entendu cette dame s'exprimer dans une émission de radio et j'étais tellement ravie de la nouvelle que j'avais envie de soutenir un petit peu le projet. Mais ce que je trouve dommage, c'est que si je l'avais pas entendu à la radio, en fait, je l'aurais pas su.
Oui.
Et je me dis que il y a une petite communication. Il y a quand même 1500 téléchargements. Alors, le jour où on sera vraiment tous au courant et où le système sera vraiment établi, il y en aura, mais encore plus, et ça sera vraiment utile à tout le monde. Et je rejoins ce qu'il dit au niveau des commerçants. C'est vrai que souvent, on voit qu'ils savent pas comment faire. Ils se rendent compte qu'effectivement, il n'y a pas un vrai système qui est prévu pour nous. Et souvent, ils sont assez mal à l'aise entre le fait de, surtout des petits, comment dire? Des petits magasins qui, des fois, vont avoir une file d'attente. Enfin, moi, je sais que cet été, j'étais sur un truc de restauration rapide. Le monsieur était très gêné de me laisser passer par rapport à la tonne de personnes qui attendaient,
oui.
Parce qu'ils n'auraient pas compris pourquoi moi je passais et pas eux, en fait.
Donc, il vous a pas laissé passer ?
Non, parce qu'en plus, si vous voulez, à cause du Covid, comme je sortais plus de chez moi, j'ai pas fait attention aux dates de validité de ma carte.
D'accord.
Et le monsieur a quand même eu l'eau de penser à vérifier la carte de validité, la date de validité. Donc, comme elle n'était plus à jour, il m'a pris pour une menteuse, que je ne suis pas, bien évidemment. Donc, j'ai pas apprécié ce moment.
Oui.
C'est pas grave.
Merci Marine pour votre témoignage. On va vous laisser, on va prendre quelqu'un d'autre au téléphone. Je vous souhaite une très bonne journée et merci encore d'avoir témoigné sur l'antenne de Vivre FM.
Bien, merci à vous de faire cette émission et je vous souhaite également une bonne journée.
Merci Marine. Et donc nous avons toujours Charlène au téléphone. Cette application, vous pensez qu'on pourra la voir quand, dans toute la France? Ce sera opérationnel quand?
Alors on vient de déposer l'application sur les stores. On attend la validation de Google et d'Apple. Je pense que ça va pas tarder, hein. C'est juste une question de semaine. Et en ce qui concerne la commercialisation des boîtiers, ça va arriver sur la fin d'année. Alors j'ai pas de date exacte à vous donner, ça va dépendre de la fabrication.
Oui.
Mais en tout cas, sur cette fin d'année, on devrait pouvoir commencer en fait à installer les premiers dispositifs. Je voudrais rebondir aussi sur ce que Marine disait par rapport à sa carte, où elle n'avait pas fait attention à sa carte de validité.
Oui.
Nous, avec l'enregistrement en fait des cartes sur l'application, ça va nous permettre en fait d'envoyer des alertes aux utilisateurs de l'application. On va faire en sorte que 6 mois avant, on puisse leur envoyer un petit mail d'alerte en leur disant
bien.
Attention, votre carte arrive bientôt à en fin de validité. Pensez à renouveler votre dossier, parce que c'est souvent ce qui se passe. On oublie complètement cette date et on oublie de refaire son dossier.
Et les démarches sont très longues pour obtenir cette carte de priorité ?
Oui, c'est assez long, hein, ça se compte quand même en mois. Alors en fonction des départements, c'est plus ou moins long, mais c'est sur plusieurs mois quand même. Donc voilà, ça permettra de faire une petite alerte. Sur l'application aussi, il y aura possibilité de recevoir un petit message. Alors je ne sais pas encore si ça sera toutes les semaines ou tous les 15 jours, mais en tout cas, pour leur indiquer autour de chez vous, dans un périmètre de 20 ou 30 kilomètres, de nouveaux commerces ou de nouveaux lieux se sont équipés, ce qui permettra aux personnes de se dire « tiens, c'est vrai que moi j'ai l'habitude d'aller là-bas » ou alors « j'avais l'habitude, mais je n'y allais plus parce que c'était trop compliqué » de se dire « bon, ils sont équipés d'Indivisible, on va pouvoir aller tester comment ça se passe avec le dispositif. »
D'accord. Nous avons en ligne Carole Guéchy. Bonjour Carole.
Bonjour.
Vous êtes déléguée et ministérielle à l'accessibilité. Vous avez travaillé à la SNCF comme directrice accessibilité et voyageurs handicapés. Et aujourd'hui, vous êtes déléguée ministérielle à l'accessibilité et pour promouvoir l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Alors là, on parle de handicap invisible. On parle de ces personnes qui ont une carte de priorité, une carte de stationnement et qui ont des difficultés à faire valoir leurs droits devant l'agressivité, l'indifférence, le refus du public d'accepter ces droits. Est-ce que vous travaillez sur ce sujet, Carole Guéchy ?
Oui, en particulier, oui, absolument. Alors, sur mes domaines de compétences, bien sûr, hein, c'est-à-dire à la fois sur l'ensemble de la chaîne de déplacement, donc
oui.
Les espaces publics, voiries, le logement et les transports, voilà.
Oui.
Donc, oui, c'est très important. Je dirais même que dans l'accueil des personnes avec un handicap invisible, je rappelle que c'est quand même 80% des personnes handicapées en France, hein,
oui.
Les handicaps invisibles. Hein. Je ne sais pas si ça a été dit par vos prédécesseurs.
Ça a été dit, oui.
C'est voilà, c'est important de le rappeler. Bah, il y a des solutions qui relèvent du savoir-être et puis d'autres du savoir-faire, je dirais. Et sur le savoir-être, la première chose que nous poussons aujourd'hui, c'est la formation du personnel au contact avec le public. Parce qu'une personne formée est une personne bien plus attentive et qui sera capable de mieux détecter les attentes de la personne avec un handicap qui ne se voit pas comme ça naturellement au premier coup d'œil. Donc la formation, elle est incluse dans différents textes de loi, bien sûr, et elle s'impose notamment dans les transports, notamment pour tout le personnel qui est au contact avec le public.
Oui.
Mais j'irai même au-delà. Cette formation de sensibilisation, ne serait-ce que ça, au handicap et à la compréhension des handicaps, c'est quelque chose qui, dans d'autres pays, je vais prendre l'exemple du Japon, où nous avons à tous assisté aux Jeux olympiques et paralympiques, on s'aperçoit que dans les transports japonais, l'ensemble du personnel, mais du patron, du patron et de tout le management jusqu'aux salariés qui est dans les transports, tous sont formés à la sensibilisation au handicap. Ce n'est pas encore le cas en France, donc il y a des progrès à faire en matière de compréhension, et donc cette compréhension aide à la bienveillance, évidemment. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous insistons énormément. Et puis après, dans les savoir-faire toujours, nous avons bien sûr... tout ce qui relève de la concertation et de l'échange avec les personnes concernées, les usagers. Bien évidemment, quand vous décidez de construire, d'aménager quelque chose, mais que vous pensez au préalable à échanger avec les personnes qui vont utiliser vos adaptations, utiliser vos équipements, eh bien vous verrez que le confort d'usage sera vraiment bien meilleur. Et donc, c'est aussi dans les façons de pratiquer l'accessibilité qu'il faut avancer, je dirais, et ce sont des points importants. Voilà deux exemples sur lesquels je voulais vous donner des idées. Après, oui. Évidemment, il y a des aspects beaucoup plus techniques. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour que chacun comprenne et comprenne la différence, comprenne la diversité, c'est vraiment mieux... d'avoir au moins une sensibilisation, d'avoir participé à des échanges qui peuvent, encore une fois, se faire à tous les niveaux.
Oui, parce que là, vous m'avez parlé de la formation du personnel, bien sûr, ça c'est dans vos compétences, mais est-ce que vous pouvez former les usagers, le public ?
Mais le public, la plupart du public a un métier.
Oui.
Et des personnes en situation de handicap, il va en rencontrer tout au long de sa vie, même s'il n'en côtoie pas dans sa sphère intime, personnel, il va en côtoyer. Donc, les formations, vous pouvez les trouver à la fois auprès de votre employeur, vous pouvez les trouver dans le cadre de votre vie associative avec des associations de personnes en situation de handicap qui seront ravies d'être sollicitées pour faire de la sensibilisation, par exemple. Donc, vous voyez, il n'y a pas de... Faut pas imaginer qu'on va chercher forcément des choses extrêmement compliquées à mettre en œuvre. Après, évidemment, pour des personnels qui sont en contact avec le public, là, c'est des formations un peu plus techniques.
Alors, Madame Biéchi, avec nous Charlène Maïté Ferdinand, qui a créé un dispositif indivisible. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il n'est pas encore tout à fait effectif. Il a été en phase de test récemment, qui permet à une personne avec son propre portable d'indiquer qu'elle est en situation de handicap et la personne du magasin ou une personne habilitée peut venir la chercher pour qu'elle ne fasse pas la queue ou qu'elle ait une place pour s'asseoir. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, alors je connais ce dispositif. On a même échangé la semaine dernière sur le salon autonomique à la porte de Versailles. Évidemment, c'est une solution intéressante et je la recommande. Mais encore une fois, je dois dire que ça ne doit pas dispenser, par exemple, les directeurs d'établissements, de supermarchés, de grandes surfaces, etc., de former leur personnel de caisse.
Bien sûr.
Je veux dire, il ne faut pas imaginer que ça doit être uniquement à la personne en situation de handicap de faire le pas de côté alors qu'elle a tout à fait le droit de passer en priorité, qu'elle a une carte qui lui permet de revendiquer ce droit et que, bien évidemment, compte tenu de son état de santé, visible ou invisible, elle y a droit. Donc, voilà, je pense que les deux sont complémentaires, mais moi, je suis très attentive, encore une fois, à ce que les salariés, surtout dans des établissements de commerce, d'accueil du public, etc., soient formés.
Oui. Marie-Claire, vous entendez tout ce que nous dit Carole Guéchy, déléguée ministérielle à l'accessibilité. Vous comprenez ?
Alors, je comprends, et si vous le permettez, j'aimerais relever quelques points.
Marie-Claire, qui a un handicap invisible, hein, je le précise.
La formation, on est ravis d'entendre qu'elle va exister. Maintenant, il ne faudrait pas que ce soit une formation au choix, il faudrait que ce soit une formation pas obligatoire, que tout le monde la fasse. Mais surtout, ça ne dispensera pas de faire une sensibilisation nationale, parce que il ne s'agit pas que de la formation dans chaque corps de métier, il s'agit du grand public aussi. Je donne un exemple simple, je suis vraiment désolée, mi-octobre, je vais à Lille, il y a... Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le contrôleur qui dit « Non, mais il y a plus de 1000 personnes, donc... » Parce que je vais le voir, je lui dis « Mais qu'est-ce qui se passe ? Bon, il y a eu du retard, ok. Où est la file d'attente pour les personnes PMR ?»
Vous parlez de quoi ? Du train ?
L'SNCF, Gare de Lille.
D'accord.
Je lui dis « Où est la file d'attente des PMR ?» Personnes à mobilité réduite, parce que c'est quand même plus joli que dire des personnes handicapées. Il ne me comprend pas. Donc, du coup, je lui fais la traduction, je lui explique. Et il me dit, il n'y en a pas. Je lui dis, pardon. Là, c'est quand même... Voilà, c'est le SNCF. Et il me dit, vous ne voyez pas, là, il y a plus de 1000 personnes. Vous ne croyez quand même pas que je vais vous faire passer avant. Je lui dis, mais parce qu'il y a 1000 personnes, je ne vais pas tenir, justement.
Oui.
Et je ne comprends pas. Donc, pour moi, c'est inadmissible en 2021 en France qu'on en soit là. Effectivement, j'espère que la formation aussi sera dans les écoles. Et comme on voit tout à l'heure, il me semble que c'était Charlène, ou je peux me tromper, qui, tout comme nous toutes, se retrouve aux impôts ou ailleurs, ou à la poste. Ah, bah, la semaine dernière, je vais à la poste. Eh ben non, j'ai dû trouver où m'asseoir dehors pour attendre.
Oui. On arrive au terme de l'émission. Marie-Claire, un dernier mot, Carole Guéchy, il nous reste une minute.
Oui, alors, bon, la formation, elle est déjà obligatoire dans les transports, hein, c'est pas une nouveauté. Donc, si la personne que vous avez rencontrée, là, en l'occurrence, un agent d'accueil, n'est pas formée et ne sait pas ce que c'est qu'un PMR, je pense qu'il faut surtout le remonter au président de la SNCF, vous voyez. Parce que la formation, depuis l'ordonnance sur les agendas d'accessibilité programmée, elle est obligatoire dans les transports publics. Donc, c'est pas une nouveauté, ça n'a rien d'une nouveauté. Après qu'elle soit pas largement faite auprès des agents, ça, c'est un autre problème, mais en tout cas, c'est pas une nouveauté. Après, je suis d'accord avec vous, mais la sensibilisation nationale, nous venons de la démarrer, la sensibilisation nationale, avec une grande campagne de communication, hein, qui est sur vos écrans depuis lundi dernier et qui va durer jusqu'au mois de janvier. Et c'est bien de la sensibilisation au handicap que l'État français, le gouvernement a souhaité faire. Ça n'était pas arrivé depuis 15 ans en France, il faut le rappeler. Donc, on est assez fiers de cette campagne qui va se décliner à la fois en télé, à la fois dans les journaux, et en 360 sur les réseaux également, avec des
images. Ça commence quand, cette campagne ?
Elle a commencé lundi 18 et elle se prolonge jusqu'au mois de janvier.
D'accord. Merci à vous, Carole Guéchy, déléguée ministérielle à l'accessibilité. Merci Maïté Ferdinand, créatrice du dispositif Handivisible. Vous êtes dans l'aube. Merci Marine d'avoir participé. Merci également Marie-Claire Vidja. Merci à vous. Vous avez témoigné de votre handicap invisible. Merci d'être venue, de vous être déplacée. C'était pas évident. Merci sur cette émission Handicap Invisible.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.